Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un personnage assez énigmatique que Franck Ferrand convoque cet après-midi à la barre des témoins de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Qui était vraiment Joseph Balsamo alias Cagliostro, un mage initié, détenteur de secrets fabuleux, ou simplement un petit arnaqueur porté au nu par des gens crédules? J'ai attendu toutes ces années pour poser publiquement la question. Eh bien, nous allons tenter d'y répondre dans l'heure qui vient.
En donnant la parole évidemment à des experts de l'époque et du personnage.
Eh oui, l'universitaire Pierre-Yves Beaurepaire est l'auteur du volume consacré à la France des Lumières dans cette monumentale et somptueuse collection des éditions Belin. Vous savez, c'est un peu la référence. Quant à Philippe Séguy, on ne le présente plus. Il fait partie de la famille.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il a fasciné des générations d'amoureux de la petite histoire. C'est un peu, si vous voulez, la star du mystère d'autrefois, le héros des romans feuilletons du siècle passé, une sorte de figure un peu magique qui, de sa haute stature, paraît dominer la fin de l'Ancien Régime. Vous savez, ces ultimes douceurs du règne de Louis XVI, pour y jeter une ombre, affirment les uns, pour l'illuminer au contraire, protestent les autres. Cagliostro n'a pas d'âge, puisqu'il se déclare immortel. Cagliostro n'a pas de famille, puisque sa véritable famille, c'est cette franc-maçonnerie égyptienne, antédiluvienne, dont il est le grand maître. Cagliostro n'a pas de patrie, puisqu'il ne se sent investi que de la mission de détrôner les rois. Il est le comte élu, l'élève chéri du sage Altotas, le nourrisson du shérif de la Mecque, fils du dernier roi de Trébizonde, Acharat, l'enfant infortuné de la nature. Il est le mage suprême, ce démiurge qui possède le pouvoir de ressusciter les morts et de changer les petits brillants en diamants énormes. Cela rappelle un autre personnage qui l'a précédé de peu dans la faveur universelle des salons et des cours, le comte de Saint-Germain qui, du temps de Louis XV et de Madame de Pompadour, donnait des frissons aux grandes dames et aux plus puissants seigneurs des espoirs insensés. Cagliostro est mieux et plus que Saint-Germain, il est le grand cofte d'Europe et d'Asie. Ça, c'est en tout cas ce qu'on a pu raconter, reproduire, chuchoter, rêver, broder jusqu'en 1912. Parce que depuis, on a publié, d'abord dans la presse, à l'époque c'était le grand quotidien Le Temps, puis dans l'édition, le calepin journal d'un certain Ramon, qui finira géographe, baron, académicien, mais qui avait commencé dans la vie comme secrétaire particulier du dit Cagliostro. Et d'ailleurs Cagliostro, qui ne s'appelait pas Cagliostro, mais Giuseppe Balsamo di Beppo. Et si je puis me permettre, autant la vie de Cagliostro a de quoi captiver les foules, autant celle de Joseph Balsamo ne fait pas vraiment rêver. C'est plus banal, disons. C'est moins démiurgique, quoique. Contrairement à ce qu'il a toujours et partout raconté, notre homme n'est pas né au milieu de la mer Rouge, non. Il est né à Palerme, dans le réduit d'un très modeste garde-magasin. Il n'a pas été éduqué par les grands prêtres au pied des pyramides. Non, il s'est fait tout seul, lui, entraînant nu-pied dans les ruelles sordides de Palerme. Pour parler vrai, son parcours est d'une assez banale normalité. Il entre au petit séminaire à 12 ans, je vous dis pas dans quelles circonstances, on y reviendra peut-être. Il y est souvent puni, du reste. Il s'en échappe. Il devient l'arpète d'un apothicaire de couvent. Pour se faire un peu d'argent, il lit la Bible aux moines du dit couvent, pendant les repas. Mais comme il a pour habitude de changer le nom de certaines saintes et martyrs en leur donnant celui des fameuses prostituée du bourg voisin, eh bien on le chasse de nouveau. Il devient alors peintre pour la galerie et proxénète pour les revenus que ça procure. Il fabrique et vend de faux papiers, il trafique, il boutique, il arnaque son prochain. Et puis, attiré depuis toujours par la magie et les rites hermétiques, il s'embarque pour l'Orient, voyage à Constantinople, Bagdad, Smyrne, Alep, Le Caire. C'est peut-être ce qu'il appellera après tout sa naissance au pied des pyramides, mais alors il s'agit d'une seconde naissance, d'une renaissance à une vie autrement magnifique. Comme toutes les créatures étranges, Balsamo a eu son créateur ou sa créatrice, car il s'agit en l'occurrence d'une femme, celle qui va devenir sa femme, Lorenza Feliciani alias Serafina, déjà tout un programme. La belle aventurière qui a su déceler dans ce petit charlatan sans grande envergure la nature d'un immense illusionniste, c'est elle finalement la magicienne. Serafina est très inventive, absolument dénuée de tout scrupule, dotée d'ambition pour deux du moins. Depuis Rome, et où les routes de ces deux personnages se sont croisées à Rome, depuis Rome, elle va faire rayonner Cagliostro, c'est son nouveau nom, sur l'Europe décadente, sur l'Europe alanguie des cours où soupire l'ennui et la facilité. Elle sut, nous dit Philippe Erlanger, transformer les contre-vérités en chimères, le proxénétisme en serviabilité, l'escroquerie en art, la superstition en goût du merveilleux. Bref, elle fit jaillir une personnalité du chaos, elle libéra une force prête à frapper le monde.
Extrait sur Europe 1 de Thamos, roi d'Égypte, et extrait d'ailleurs de Mozart l'Égyptien, composé par Hugues de Courson.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui retrace aujourd'hui sur Europe 1 le parcours d'un personnage fascinant, Cagliostro l'Immortel.
Eh oui, alors encore un peu de légende justement si vous voulez. On dit que c'est aux environs de Francfort que Cagliostro aurait découvert un souterrain. Et dans ce souterrain, un parchemin vieux de 470 ans sur lequel son nom, le nom de Cagliostro, était inscrit en caractères qui avaient été tracés avec du sang. Et par ce parchemin, l'ordre des Templiers, vous savez, ces Templiers persécutés par le roi Philippe le Bel et le pape Clément V, les Templiers auraient légué au futur Cagliostro le soin de leur vengeance. Voilà notre homme investi par ce document du soin de détruire tous les souverains absolus, à commencer bien entendu par le premier, le plus important d'entre eux, par le roi de France. Cagliostro serait passé de Francfort à Strasbourg, là il se serait introduit dans la bonne société et dans quelques soupers plus ou moins brillants, il aurait fini par croiser le célèbre cardinal de Rohan, grand aumônier de France, auquel la belle Serafina aurait fait gentiment sa cour. Finalement, grâce à Rohan, le grand cofte, comme il se fait appeler, le grand cofta, dit-on aussi, Cagliostro aurait monté de lui-même la terrible affaire du collier pour se lancer à l'assaut de la monarchie française. Ça, c'est la légende. La vérité, la vérité, disons-le, est beaucoup plus prosaïque. En fait, ils se sont, je vous l'ai dit, rencontrés à Rome, ces deux-là, et alors ils vont commencer par monter des petites arnaques. Alors leur première victime se trouve être quelqu'un d'important, c'est le gouverneur vice-roi de Barcelone, chez lequel Cagliostro a été engagé comme dessinateur, mais auquel il a présenté sa femme, et la femme l'a séduit. De même, cette Serafina va séduire un peu plus tard à Madrid le duc d'Albe, et puis un riche Sicilien, on les retrouve un peu plus tard à Londres. À Londres, ils sont littéralement devenus les gens de confiance, on a parfois mieux placé sa confiance, les gens de confiance d'un lord chez lequel ils sont tout de même hébergés pendant 4 mois. Et puis ils passent en France, on les retrouve chez un certain monsieur Duplessis, qui est intendant du marquis de Prie. Alors Duplessis a eu pitié de la belle madame Cagliostro qu'il a prise avec lui dans sa voiture au cours d'un voyage, il l'a ramenée jusqu'à Paris, tandis que le mari, lui, suivait d'un petit peu loin en chaise de poste, en imaginant déjà ce qu'on allait pouvoir faire d'une si belle relation. 2 ans plus tard, les revoilà en Angleterre, cette fois Cagliostro est réputé colonel au service de sa majesté le roi de Prusse. Son grand plaisir à l'époque et son tour le plus fameux, c'est de faire signer des papiers à un certain nombre de grands personnages à la fin d'un dîner ou d'un souper. Il fait signer les papiers puis il met le feu aux papiers Tout le monde s'esbaudit quand ensuite de sa poche, Cagliostro ressort les papiers dûment signés. On a vu des illusionnistes nous faire ça 1000 fois, mais à l'époque ça a fait encore son petit effet cette histoire. Il prétend aussi être capable de faire grossir les diamants. Alors il y a une certaine Lady Fry qui va se laisser avoir. Elle présente un collier de petits brillants, elle met le collier dans un creuset, on fait toutes les incantations nécessaires et puis finalement le collier a carrément disparu. On va le retrouver où ? Ben, dans les bagages de nos deux amis qui sont arrêtés, procès, emprisonnement, tracasseries diverses. Finalement, les voilà à Amsterdam, d'Amsterdam à Bruxelles et les voilà partis pour Saint-Pétersbourg où Cagliostro est devenu colonel espagnol cette fois. Et allons-y ! À Saint-Pétersbourg, le médecin de l'impératrice a traité Cagliostro de charlatan. Alors, à ce moment-là, Cagliostro lui dit bah, « Si je suis charlatan, monsieur, nous allons bien voir, nous allons faire un duel de poison. » Et l'autre se dérobe. En attendant, l'impératrice finit par les expulser. Il se retrouve à Varsovie. De Varsovie, il passe à Francfort. C'est là que Cagliostro n'a pas découvert le parchemin dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis de Francfort, effectivement, ils vont passer gentiment en Alsace, à Strasbourg. C'est là qu'ils rencontrent le cardinal de Rohan. Alors ça, c'est la partie authentique de la fable, si je puis dire. Chez Rohan, Cagliostro va exécuter le célèbre tour de la carafe. Vous savez, il installe une carafe d'eau très pure sur une table, il l'installe derrière un paravent. Il y a devant la carafe un enfant qui dit ce qu'il voit dans la carafe ou ce qu'il est censé voir. Et derrière le paravent, Cagliostro, sans rien voir ni savoir, ni même connaître l'assistance, interprète les réponses candides de l'enfant. Le cardinal, dit-on, adore ce tour et peu à peu, il va faire de son nouvel ami Cagliostro et de la belle Madame de Cagliostro, ses meilleurs amis. C'est lui qui les amène à Paris. Ils font leur début dans le grand monde, si je puis dire, à l'été 1781. Et à ce moment-là, ils ont besoin pour le tour de la carafe, qui est devenue d'ailleurs une boule de cristal remplie d'eau très pure. Ils ont besoin d'une complice, ils ont besoin d'une jeune femme très pure. Alors, ça sera une certaine Mademoiselle de la Tour. Le problème, c'est que cette Mademoiselle de la Tour, elle est la nièce d'une certaine Madame de la Motte. Et que Madame de la Motte, vous le savez, c'est la principale instigatrice de la plus célèbre arnaque de l'époque et de la fin de l'Ancien Régime. Madame de la Motte, c'est l'une des protagonistes de l'affaire du collier.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous sommes précisément sur Europe 1, au cœur de l'histoire de la célèbre affaire du collier, Franck.
Ah oui, cette affaire du collier dans laquelle le pauvre cardinal de Rohan a été embringué malgré lui. Je ne dis rien de la reine Marie-Antoinette qui, elle, était complètement extérieure à l'affaire mais qui a été finalement, politiquement en tout cas, la principale victime de l'histoire. Les principaux protagonistes, ce sont des arnaqueurs dont Madame de la Motte, bien entendu, qui se faisait appeler Madame de la Motte Valois. Elle descend par l'escalier de service de la famille des rois de France, des Valois. Et cette Madame de la Motte est très proche de Madame de Cagliostro, n'est-ce pas ? Cagliostro lui-même a su plaire au cardinal de Rohan et les voilà embringués dans cette affaire. Ils vont faire partie de ceux qui sont condamnés pour cette affaire et notamment on envoie Cagliostro à la Bastille. Avant ça, il passe devant la grande chambre du Parlement de Paris et c'est là qu'il fait cette espèce d'étrange déclaration qui n'est sûrement pas pour rien dans la légende qui, jusqu'à nos jours, a persisté. « Je ne suis d'aucune époque ni d'aucun lieu, » dit Cagliostro. « En dehors du temps et de l'espace, mon être spirituel vit son éternelle existence et, si je plonge dans ma pensée en remontant le cours des âges, si j'étends mon esprit vers un mode d'existence éloigné de celui que vous percevez, je deviens celui que je désire. Participant consciemment à l'être absolu avec un grand E, je règle mon action selon le milieu qui m'entoure. Mon nom est celui de ma fonction et je le choisis ainsi que ma fonction parce que je suis libre. Mon pays est celui où je fixe momentanément mes pas. Datez-vous d'hier, si vous le voulez, en vous rehaussant d'années vécues par des ancêtres qui vous furent étrangers, ou de demain, par l'orgueil illusoire d'une grandeur qui ne sera peut-être jamais la vôtre. Moi, je suis celui qui est. Je n'ai qu'un père. Différentes circonstances de ma vie m'ont fait soupçonner à ce sujet de grandes et émouvantes vérités, mais les mystères de cette origine et les rapports qui m'unissent à ce père inconnu sont et restent mes secrets, que ceux qui seront appelés à les deviner, à les entrevoir comme je l'ai fait, me comprennent et m'approuvent. quant au lieu, à l'heure où mon corps matériel il y a quelque 40 ans se forma sur cette terre, quant à la famille que j'ai choisie pour cela, je veux l'ignorer, je ne veux pas me souvenir du passé pour ne pas augmenter les responsabilités déjà lourdes de ceux qui m'ont connu, car il est écrit « Tu ne feras pas tomber l'aveugle, je ne suis pas né de la chair ni de la volonté de l'homme, je suis né de l'esprit ». Mon nom, celui qui est à moi et de moi, celui que j'ai choisi pour paraître au milieu de vous, voilà celui que je réclame, celui dont on m'appela à ma naissance, ce qu'on m'a donné dans ma jeunesse, ceux sous lesquels, en d'autres temps et lieux, je fus connu, je les ai laissés, comme j'aurais laissé des vêtements démodés et désormais inutiles. Me voici, je suis noble et voyageur, je parle et votre âme frémit en reconnaissant d'anciennes paroles. Une voix qui est en vous et qui s'est étue depuis bien longtemps répond à l'appel de la mienne. J'agis et la paix revient en vos cœurs, la santé dans vos corps, l'espoir et le courage dans vos âmes. Tous les hommes sont mes frères, tous les pays me sont chers. Je les parcours pour que partout l'esprit puisse descendre et trouver un chemin vers vous. Voilà qui réconcilie Philippe Séguy avec cette émission. Il était assez outré du personnage dont j'ai brossé le portrait pendant la première partie. Et voilà qu'apparaît l'esprit. Je suis très heureux de recevoir Pierre-Yves Brepère également autour de cette table qui connaît si bien le XVIIIe siècle, tous ses arcanes et notamment les sociétés secrètes du XVIIIe siècle, car l'un des grands sujets qui se pose, c'est évidemment le sujet de la franc-maçonnerie dans lequel on peut dire que Cagliostro a joué un rôle assez important. Alors, avant de venir à tout ça, revenons peut-être sur les origines du personnage. Vous n'allez pas, Philippe Séguy, jusqu'à nier que notre prétendu Cagliostro s'appelait en vérité Giuseppe Balsamo di Beppo.
Je dirais que je ne le nie pas. Je dirais aussi qu'il n'y a pas fondamentalement de preuves historiques indiscutables qui prouvent que Joseph Balsamo est Cagliostro. En revanche, ce que l'on peut dire dans ce si beau texte que je vous remercie, cher Franck Ferrand, d'avoir dit et qui force, je dirais, non pas seulement le respect mais une attention ferme, en effet, que nous dit Cagliostro, il est né de l'esprit, peut-être s'est-il, je dirais, greffé sur un personnage de chair et de sang, ce petit escroc assez minable en effet, qui se serait appelé Joseph Balsamo. Qu'y a-t-il de commun entre un personnage aussi remarquable et qui nous donne, qui nous livre son testament d'humaniste, et en effet ce proxénète minable né sur les bords de la Sicile, rien. Donc Joseph Balsamo, c'est le personnage de la légende noire, c'est le personnage de Dumas, c'est un personnage qui n'est pas à ce point historiquement documenté.
Oui, c'est vrai qu'il y a dans toute cette affaire une grande part de roman. Alexandre Dumas au premier chef, mais pas seulement Alexandre Dumas, Pierre-Yves Brepère.
Oui, tout à fait. C'est une des caractéristiques de l'époque. C'est ce qu'on appelle, on a parlé d'escrocs, mais à l'époque, on dit chevalier d'industrie.
Oui, c'est ça.
Et ces aventuriers, donc, certes, sont des aventuriers et donc, comme tels, souvent des escrocs, mais effectivement, ils ont un génie. Là, on le voit très bien dans le texte. Ils ont aussi une capacité à sentir leur époque, les attentes du temps. Là, on le voit très bien avec tout ce que fera Cagliostro, qui fait que finalement, ils sont à la fois de très bons témoins du temps, mais aussi qu'ils ont une capacité à s'inventer une légende de leur vivant absolument extraordinaire. J'ai juste un parallèle, vous avez évoqué tout à l'heure
le comte de Saint-Germain.
Voilà, le comte de Saint-Germain, et le fait qu'il ait été, enfin, que Cagliostro ait été embastillé. Aux archives de la Bastille, à l'Arsenal, on a des merveilles comme ça de chevaliers d'industrie avec, donc, Cagliostro est pas du tout, isolé, hein. Il est dans un ensemble de dynamiques comme ça absolument extraordinaires. Juste un exemple, un contemporain de Cagliostro, c'est même un rival, qui s'appelle le prince Justiniani de Chio. Lui, il se considère comme descendant de l'empereur Justinien. Mm-hmm. En fait, c'est un instituteur de l'Orléanais qui s'est inventé de toutes pièces une généalogie, mais qui aussi, comme Cagliostro, présenté à la cour, au plus grand, etc. Donc leurs vies sont des romans.
Mais alors, ce qui est intéressant dans le texte, effectivement, dans la présentation que Cagliostro donne de lui-même aux parlementaires, aux membres de la Grande Chambre du Parlement de Paris, c'est-à-dire au tribunal, hein, tout simplement, à l'époque on est en face d'une instance judiciaire, ce qu'il y a d'intéressant dans cette présentation, c'est qu'il y a une nette dissociation entre l'identité, entre l'être contingent, si je puis dire, et puis l'être avec un grand E qui lui est spirituel. D'où un Cagliostro a-t-il pu tirer de tels types d'enseignements ? Est-ce qu'on connaît les sources auxquelles il allait puiser ?
Il y en a très nombreuses à l'époque. Il y a le fait qu'on est dans ces années où on est passionné par ce qu'on appelle les hautes sciences. Il sait très bien qu'en plus à Paris, le convent des Philalètes se réunit en 1785, ses amis de la vérité. Il sait qu'ils sont dans la grande chambre du Parlement que vous évoquez, Franck Ferrand. Il y a de très nombreux membres aussi de la loge des amis réunis qui participent à cette dynamique des hautes sciences, etc. À la même époque, on a les Illuminés d'Avignon qui écoute les prophéties de la Sainte Parole. Donc là aussi, il est parfaitement en phase avec la recherche du mystère dans cette grande société.
Le mystère dont il s'entoure, dans lequel il se drape, est peut-être aussi, et c'est ce qu'il y a d'intéressant, je crois, dans cette émission, c'est ce que nous avons à chercher, nous, est peut-être aussi un véritable mystère. Alors on va essayer de le percer, et notamment on va en venir au rôle qu'a pu jouer Cagliostro dans la franc-maçonnerie.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie de l'universitaire Pierre-Yves Beaurepaire, auteur notamment de La France des Lumières chez Belin, et Philippe Séguy, qui est journaliste à Point de Vue, auteur de Vent du Sud, mémoire du comte de Cagliostro aux presses de la Renaissance.
Oui,
Franck.
Le Vent du Sud, c'est un très beau roman qui est paru il y a une bonne dizaine d'années maintenant, oui, Philippe Séguy, où vous nous présentiez un Cagliostro à la fois picaresque et très inspiré, ce qu'il était peut-être, mais le portrait que vous en donniez était assez flatteur. Isabelle nous dit via Internet que Maurice Leblanc, nous consacrerons très bientôt une émission à Maurice Leblanc et Arsène Lupin en direct d'Étretat, là-bas on va y aller.
Ah, creuse.
Hein. Et Maurice Leblanc dresse une intrigue mettant en scène Arsène Lupin et Madame de Cagliostro. C'est quelle Madame de Cagliostro ?
Alors c'est Madame de Cagliostro et la fille du comte de Cagliostro, et Maurice Leblanc n'échappe pas à la règle puisqu'il dresse justement une fois de plus un portrait négatif de la jolie jeune fille qui a réussi à conserver sa beauté au fil des siècles. C'est la fille à son papa, donc elle a bu à la source l'élixir de longue vie de cette fontaine de jouvence, mais elle a hérité toujours dans cette tradition noire du caractère épouvantable de son papa. Donc c'est véritablement le personnage vomi par les enfers, et il faut toute la science et la préscience du bel Arsène pour qu'il ne parvienne pas à ses fins diaboliques. Voilà.
Alors Isabelle nous demande également si l'on ne pourrait pas rapprocher Cagliostro de certains autres personnages qui, comme Mesmer à la même époque ou plus tard Rasputin, nous dit-elle, en détenant de pseudo-secrets, fascinent tant les gens aisés.
Moi je préférais Mesmer à Rasputin. Dans ce cas-là.
Pas vraiment le même personnage.
Non, parce que c'est pas vraiment le même personnage.
Il y a ce que veut dire Isabelle, je comprends très bien le parallèle, c'est qu'on est en face de personnes très inspirées, prétendument détentrices de grands mystères, et qui, grâce à cela, s'insinuent dans l'intimité des plus hauts personnages de leur époque, c'est ça, hein ?
Tout à fait. Pour Mesmer, le rapprochement, par contre, est très pertinent, parce qu'effectivement, il y a la question de l'exercice de la médecine, qui peut aussi poser des problèmes par rapport à la science académique, etc. Mesmer y a goûté de ces problèmes-là, et Cagliostro aussi. Et en même temps, il y a l'idée aussi d'un succès dans la bonne société, dans le monde, notamment en offrant la possibilité aux femmes de participer à ces cérémonies, mais aussi à toute la forme de sociabilité aristocratique qui se greffe autour. Et l'un comme l'autre, Mesmer avec son baquet comme Cagliostro, ont bien compris que l'ouverture aux femmes, c'était l'ouverture aussi vers la bonne société, vers la cour. Et ça, ça montre leur intelligence.
Oui, ils ont une sorte de ductilité mentale absolument extraordinaire et qui se retrouve dans le propos lui-même, bien entendu. Alors, Pierre-Yves Beaurepaire, on dit de Cagliostro qu'il est à l'origine du rite égyptien dans la franc-maçonnerie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Alors, comme toujours à l'époque, il y a de très nombreux rites parce que la franc-maçonnerie a un succès énorme en Europe. Donc, est-ce que c'est l'origine unique ? On peut sûrement en discuter parce qu'il y a déjà un goût pour l'Égypte ancienne bien plus ancien, mais en tout cas qu'il ait su là aussi percevoir le frémissement de ce qu'était l'égyptomanie, ça c'est très clair. Et du coup, il l'organise aussi bien à Strasbourg qu'à Lyon, et puis bien au-delà, parce qu'on a même les témoignages d'une jeune aristocrate en Courlande, donc dans les provinces baltes de l'Empire russe, qui assiste, et là aussi c'est l'aristocratie, avec son père et avec son oncle, à des cérémonies égyptiennes qui l'emballent complètement.
Hein. En fait, la franc-maçonnerie avait une... comment pourrait-on dire ça ? J'allais dire une reviviscence, une renaissance via l'Écosse au début du XVIIIe siècle. Et puis, avec Cagliostro, elle prend à la fois du champ sur un plan géographique et le large sur un plan temporel, puisque lui fait remonter le savoir initiatique à la plus haute antiquité, en l'occurrence à l'Égypte pour l'époque.
Mais il en est persuadé dans la mesure où il a, lorsqu'on parle du Cagliostro voyageur, c'est un homme en effet qui voyage dans l'espace, mais qui, d'après ce qu'il dit, voyage également dans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'il est en phase avec lui-même, avec ce qu'il dit. Il prétend avoir été initié dans la plus haute antiquité, au pied des pyramides, mais il est convaincu d'avoir cette mémoire infinie. Mais pour revenir une toute petite seconde sur l'idée du voyageur, il est tout à fait naturel qu'un être de la trempe, et j'insiste sur la formule, pardonnez-moi, mais de la trempe de Cagliostro, voyage pour diffuser en quelque sorte ses idées. Il est le bon pasteur de cette nouvelle philosophie.
Et pour en infuser certaines, probablement.
Pour en infuser certaines, mais c'est un homme qui est persuadé de faire le bien. On parlera peut-être de son rapport à la médecine, on l'a déjà évoqué. C'est un homme qui ne se fait jamais payer ses consultations. C'est un homme qui va donner gratuitement, gracieusement, ses médicaments qu'il réalise. Existe d'ailleurs lui-même.
Alors nous parlons de voyage et de franc-maçonnerie, c'est le moment ou jamais d'évoquer cette belle exposition qui se tient au musée de la franc-maçonnerie jusqu'au 15 juillet, qui s'appelle Corto Maltese ou les secrets de l'initiation. Corto Maltese, c'est le père, c'est le fils, pardon, en l'occurrence d'Hugo Pratt. Et nous avons en ligne Emmanuel Pierrat qui a contribué à cette exposition sur Corto Maltese ou les secrets de l'initiation. Bonjour Emmanuel Pierrat.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci d'être avec nous. Est-ce que Hugo Pratt lui-même avait un lien avec la maçonnerie telle que l'avait instituée Cagliostro ?
Alors, Hugo Pratt est devenu maçon dans les années 70 et il est resté jusqu'à la fin de sa vie et a mis en scène pour Corto Maltese, notamment dans la Fable de Venise, des moments, on va dire, d'initiation, de vie en loge, ainsi que dans d'autres albums, qui ne sont pas nécessairement reliés aux aventures de Corto Maltese, son héros préféré.
Oui, c'est ça, il l'a diffusé ailleurs aussi, bien sûr.
Il l'a diffusé ailleurs, voilà. Donc on retrouve ça dans toute l'œuvre d'Hugo Pratt. Ceci dit, s'il y a une grande tradition vénitienne de loge, parce qu'on peut remonter à Casanova, par exemple, dans les grands personnages du 17e siècle, initié à Venise, on peut passer par Goldoni, jusqu'à Hugo Pratt, etc., et de littérateurs. Néanmoins, ce n'est pas le rite égyptien qui est pratiqué par Hugo Pratt quand il est initié en loge. Ceci dit, le rite égyptien créé par, créé entre guillemets par Cagliostro,
oui, vous pouvez éclairer notre lanterne là-dessus ? Quelle est la part de création chez Cagliostro et la part de reprise et d'adoption ?
Je pense pas plus de réponses que les invités de cette émission et notamment ce beau repère sur est-ce que oui ou non il a saisi l'égyptomanie pour véritablement on va dire la transformer en un courant maçonnique ou est-ce que il a contribué avec plusieurs. Ce qui est certain c'est qu'on lui en attribue aujourd'hui la paternité de ces égyptiens. Et que si on doit trouver une sorte de père fondateur, en quelque sorte, ou de premier grand, on va dire, initiateur, c'est bien Cagliostro. Avec une pérennité particulière, au XVIIIe siècle, on connaît, donc apparaît le rite français, en plus du rite écossais, et apparaîtra donc notamment en 1783, et donc Cagliostro en 1777, quand il est initié, un an après, à peine participe à la création de ce rite dit égyptien, qu'on appelle normalement le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm. Et ce rite, il est intéressant parce que il aurait pu rester totalement folklorique, entre guillemets, ou s'arrêter à la vie de Cagliostro, mais il connaîtra un succès formidable. notamment grâce à la campagne d'Égypte.
Et voilà. Et ce qui est fascinant, c'est que ce que vous nous dites de l'antériorité d'un certain nombre de rites et de références dans le monde de la franc-maçonnerie, on le retrouve dans bien d'autres domaines, à commencer par celui des arts décoratifs, puisque l'influence égyptienne et la mode égyptienne n'est pas directement liée, comme on l'a si souvent dit, à la campagne d'Égypte, mais ça commence avant. Ça, c'est assez fascinant, finalement.
Oui, et on a beaucoup de bâtiments, notamment d'architecturaux, à Paris même, qui sont d'inspiration, on va dire, égyptomaniaque dès le XVIIIe siècle.
C'est ça, c'est ça.
Et puis ça continuera pendant très longtemps. On trouve d'ailleurs les loges qui pratiquent le rite égyptien sont quand même encore aujourd'hui assez nombreuses, que ce soit en France et surtout en Italie. Pour revenir à ma marotte première, qui était quand même donc l'exposition Hugo Pratt.
Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette expo Hugo Pratt au musée de la franc-maçonnerie?
Qu'est-ce qu'on voit? On y voit, on va dire, beaucoup de planches originales d'Hugo Pratt, mettant en scène donc la franc-maçonnerie, des aquarelles, des dessins, donc des planches d'albums fameux. On y voit notamment des tabliers portés par Hugo Pratt lorsqu'il a atteint un certain nombre de grades ou de degrés dans sa progression maçonnique. On y voit notamment une chose très intéressante qui est l'épée, on va dire maçonnique pour simplifier les choses, que le père d'Hugo Pratt avait volé en tant que fasciste à la loge vénitienne dans laquelle Hugo Pratt sera initié bien plus tard. Mmh. Donc son père fasciste, dans les années 20, vole une épée qui se trouve, une épée symbolique, hein, qui sert au rituel dans cette loge à Venise, et le fils la rapportera quasiment 50 ans plus tard pour pouvoir être adoubé en quelque sorte par la même épée. Donc c'est une épée assez magnifique, entre guillemets, par l'histoire qu'elle a vécue. C'est pas un objet splendide, mais c'est
non,
un objet
extrêmement
intéressant.
Non, mais en soi, c'est ça, ce sont des objets qui sont chargés de mystère et d'histoire.
Voilà. Puis on y voit quelques masques que j'ai prêtés moi-même de mes collections d'art tribal, puisqu'il y a évidemment dans l'œuvre d'Hugo Pratt et de Corto Maltese des initiations et des rituels qui sont liés à des sociétés tribales, notamment en Amérique du Sud, en Océanie, en Afrique, en Amérique du Nord, etc. Donc, finalement,
Il faut dire où se trouve le musée de la franc-maçonnerie.
Alors, rue Cadet, au 16 rue Cadet, et l'exposition est ouverte, on va dire, quasiment tous les jours de la semaine, si je ne me trompe pas, consultable sur le site du Grand Orient de France, donc c'est godf.quelque chose. C'est assez facile à trouver,
et le musée,
et c'est ouvert évidemment à tout le monde.
Le musée, c'est www.museefm.org.
Bah, merci beaucoup, c'est encore plus précis que mes propres informations, et pourtant j'y vais souvent.
Merci beaucoup Emmanuel Pierrat. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur, bien sûr, des grands textes de la franc-maçonnerie décryptée. C'est édité par First, et ça permet évidemment de se replonger justement dans toute cette tradition. Là, la tradition, le mystère, les énigmes, voilà bien le sujet finalement de cette émission à travers la figure de Cagliostro.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Voici un nouvel extrait de Mozart, l'Égyptien, composé par Hugues de Courson. Il s'agit de la symphonie numéro 25 précisément. Et nous nous intéressons maintenant sur Europe 1 une autre facette, un autre Cagliostro, Franck.
Eh oui, un Cagliostro finalement un peu moins arnaqueur et un peu plus spirituel. C'est ce que je fais plaisir à Philippe Séguin. Vous avez vu que je fais ce que je peux dans cette affaire.
Je suis très sensible.
Nous avons vu à quel point, en tout cas, il avait joué un rôle important, non seulement dans l'évolution de la franc-maçonnerie intrinsèquement, mais surtout dans son extension. Car ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va mettre la maçonnerie à la mode, notamment dans la France de la toute fin de l'Ancien Régime, Philippe Séguin.
Il met la maçonnerie à la mode dans toutes les capitales de l'Europe. Il met évidemment la maçonnerie à la mode à la cour de France. Et les gens qui sont soit de la maçonnerie, je dirais, traditionnelle, soit qui sont touchés par le message de Cagliostro, touchent le trône. C'est-à-dire que tout l'entourage immédiat de la reine Marie-Antoinette est, je dirais, pro-cagliostrophile. Je vous donne simplement et très rapidement un exemple. Dans ses mémoires, la baronne d'Oberkirch raconte, qui est donc
grande mémorialiste,
exactement, près d'Alsace, raconte justement ses rencontres à la cour du cardinal de Rohan avec Cagliostro. Or, cette femme écrit combien elle est touchée, combien elle est impressionnée de ce que Cagliostro lui dit sur elle-même, sur son enfance, sur sa famille, sur son mari, sur ses enfants,
éléments qui ne sont connus que d'elle seule. Donc cette franc-maçonnerie, qu'elle soit égyptienne ou non, se répand dans tous les salons. On ne parle plus que de Cagliostro.
Et par les femmes aussi, hein, ce qui n'est pas négligeable. Il y a une augmentation, hein, de la fréquentation féminine.
Oui, oui, tout à fait. Et là, le fait qu'il est prévu dans sa maçonnerie égyptienne aussi bien des activités pour les hommes que pour les femmes, alors que souvent elles étaient dans une position seconde par rapport aux hommes. Ça aussi, c'est une très bonne sensibilité aux attentes des femmes en termes de sociabilité aristocratique à la fin du XVIIIe.
Alors tout ça va néanmoins finir assez mal, c'est ce qu'il faut dire. On pourrait penser qu'un Cagliostro immortel qui a atteint un tel niveau va finir brillamment, pas du tout. On retombe aussi bas que là d'où on était parti, en quelque sorte. Hein. La fin de la vie de Cagliostro est assez pénible. Il faut dire aussi qu'il y a, à partir de ce moment-là, dissension entre les deux, parce qu'on parle toujours de Cagliostro. On a très peu parlé de Serafina, hein, de cette femme qui est toujours avec lui, qui est derrière lui, en quelque sorte. À partir du moment où ces deux-là ne s'entendent plus, c'est le début de la fin.
Oui,
Pierre-Yves Beau, père.
Oui, tout à fait. Et en fait, sa trajectoire, fait vraiment d'une ascension fulgurante et puis aussi de cette chute aussi brutale, là encore, est caractéristique de celle de la plupart de ces chevaliers d'industrie du XVIIIe siècle, de ces aventuriers, et finalement participe aussi de la légende. Hein, d'une certaine façon. Et puis, il y a le fait que, autant dans certaines capitales, on est très bien accueilli, à Rome, on est encore dans le régime de l'inquisition du Saint-Office. Et donc là, forcément, pour toutes sortes de raisons, c'est se jeter dans la gueule du loup.
Alors, pourquoi reviennent-ils à Rome, Philippe Séguy, et pourquoi vont-ils se jeter dans la gueule de ce loup inquisiteur?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, je pense que Cagliostro sent peut-être que cette vie sur cette terre touche à sa fin. Son épouse est italienne, comme lui, visiblement. Sa famille lui manque. Et elle va subir la pression intense des siens. Et il y a toujours cette question de salut, finalement, qui est essentielle. Et on vient de dire à l'instant, le Saint-Office a une profonde détestation pour le personnage. Et l'Inquisition va s'occuper du cas Cagliostro. Vous savez que toutes les archives, toutes les minutes du procès sont conservées dans les archives vaticanes et on ne sait pas quelles sont réellement les questions qui ont été posées au moment de ce procès, quelles sont les réponses qui seront faites par Cagliostro.
Allez, encore un document mystérieux dans les archives vaticanes. Décidément, on adorerait aller s'y promener.
Et ce que l'on sait, en revanche, c'est la condamnation d'abord à mort qui sera commuée en détention perpétuelle. C'est la terrible et sinistre forteresse de San Leo. C'est un cul de basse fosse et c'est certainement un assassinat. Je pense que Cagliostro sera étouffé par l'un de ses gardiens, étranglé par l'un de ses gardiens.
Le vent du soir, c'est le titre du roman. Le vent du sud, pardon. C'est le titre du roman que vous aviez consacré à Cagliostro il y a une douzaine d'années. Merci Philippe Séguy. Merci Pierre-Yves Beaurepaire. J'espère que nous avons été à peu près neutres et équilibrés sur un sujet nébuleux, s'il en fut jamais.